Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
(7h30, 9h) La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Après les grandes lignes, les précisions concernant les magasins, les messes, les salles de spectacle, quelles jauges notamment pour le public. Conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre, ce matin, attendu au tournant à 2 jours d'un allègement du déconfinement qui démarrera notamment samedi. Protocole sanitaire toujours, les infirmières scolaires raccroche la blouse aujourd'hui pour protester contre des règles qu'elle considère comme totalement inapplicables. Enfin, des chants, des larmes, on en a parlé abondamment depuis 7h30, des drapeaux en berne, l'Argentine et toute l'Amérique latine pleurent son demi-dieu. Le légendaire Diego Maradona, qui nous a quittés hier soir sur le terrain, il était comme une sorte de Jésus qui marchait sur l'eau, se souvient l'ancien footballeur Jean-Philippe Durand, qui a notamment joué à l'Olympique de Marseille. Vous l'entendrez. Voici à 8h01, donc Marc Bourreau.
Radio Classique.
Nous entrons, Marc, dans la périlleuse explication du texte après l'intervention du président de la République, car maintenant il va falloir régler les détails. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'est pas très
clair. Oui, il y avait d'abord, Guillaume, la partition en 3 actes d'Emmanuel Macron sur un allègement du confinement mardi soir. Il y a maintenant la mise en musique par Jean Castex, conférence de presse du Premier ministre ce matin à 11h pour détailler les mesures. Premier acte dans 2 jours, samedi donc, les commerces, les librairies, les cultes pourront accueillir du public dans un protocole strict, très serré, trop serré même pour certains, Victoire Fort.
8 mètres carrés pour un seul client. Pour les petits commerces, cela signifie des entrées au compte-gouttes et peut-être une file d'attente sur les trottoirs. Les coiffeurs aimeraient une dérogation pour accueillir plus de clients. Leur chiffre d'affaires en dépend. Leur argument est de dire que lorsqu'on se fait coiffer, on ne bouge pas de son fauteuil et qu'une distance raisonnable peut être observée entre les clients. À l'exécutif de trancher. Les représentants des cultes aussi attendent de pied ferme les arbitrages. Le président a évoqué une limite de 30 personnes pendant les offices. Vincent Némon, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
On a été plutôt surpris, c'est une litote, par l'annonce du président de la République. Ça n'a absolument aucun sens. La fameuse jauge, elle peut être même évolutive. Peut-être démarrer un peu bas le 28, avec un fort espoir d'augmentation à partir du 15.
Pour d'autres secteurs, c'est le flou artistique. Victoire, les théâtres, les cinémas, les opéras retrouveront bien leur public à partir du 15 décembre. Mais les très grandes salles, comme la Philharmonie de Paris, attendent d'en savoir plus. Laurent Bayle, son président, espère que le protocole sera le même que celui en vigueur avant le second confinement.
Les jauges seront limitées à 1000 personnes. Pour la grande salle de la Philharmonie, cela signifierait que nous ne pouvons la remplir qu'à 40%. Elle a une capacité de 2400 places. Nous rentrons dans toute la problématique d'arriver progressivement à desserrer les taux, donc augmenter le nombre de personnes possibles dans la salle. Ça ne correspond pas à une logique d'un modèle économique équilibré. Bien évidemment, si ce protocole doit durer plusieurs mois, les pertes de recettes commencent à se chiffrer en millions d'euros.
Laurent Bayle, le président de la Philharmonie de Paris, avec Victoire Fort, déconfiné à pas compter en limitant les dégâts économiques. Ce sera aussi l'un des messages du Premier ministre Jean Castex. Il pourrait en dire plus sur l'aide exceptionnelle pour les plus précaires, présentée par la ministre du Travail dans les Échos ce matin. Un revenu mensuel minimal pour quelque 300 000 personnes qui alternaient chômage et travail avant le confinement. Entre 1 milliard 600 millions d'euros seront déboursés pour financer le déficit des entreprises. L'État prendra en charge 20% du chiffre d'affaires pour les établissements contraints de fermer.
Et parmi les principaux concernés, les restaurants.
Oui, le rideau restera baissé au moins jusqu'au 20 janvier. Douche froide pour le secteur après les annonces d'Emmanuel Macron. Cette fois, le protocole sanitaire extrêmement strict proposé par les professionnels n'a pas fait pencher la balance. Sentiment d'impuissance au Moulin des 4 saisons. Ancien restaurant étoilé à la Flèche dans la Sarthe, son chef, Camille Constantin, ne sait plus quoi faire pour rassurer les pouvoirs publics.
On a déjà mis en place tout ce qu'il fallait pour le protocole. On a tout fait, on a tout obéi. On est passé de 10 à 6 personnes. On a une distanciation de nos tables. On a fait 2 services pour avoir une table sur 2 pour éviter que les gens soient les uns sur les autres. On avait bien entendu les plexiglas, on avait le gel hydroalcoolique. On avait tout fait. On a tout fait, on a investi. Non, on peut rien faire de plus. Si c'est pour nous dire, vous allez mettre 10 couverts dans votre salle où vous en mettiez 30 avant, c'est pas la peine d'ouvrir. Ça, on en est bien conscient. Hein. Ça sert à rien.
Le chef Camille Constantin au micro de Céline Cajoulis.
La suite, le journal de 8h, nous sommes avec Marc Bourg.
Et pendant ce temps, les infirmières scolaires raccrochent, elles, la blouse aujourd'hui. Journée de mobilisation dans les écoles, les collèges, les lycées. Dans le collimateur, là encore, un protocole sanitaire inapplicable, faute de personnel, faute de matériel. Et avec l'arrivée de tests antigéniques dans les établissements, la charge de travail est aujourd'hui titanesque. Qui raconte Safia Guerrechi. C'est la présidente du syndicat d'infirmières scolaires SNICS-FSU.
La sollicitation vers des tâches de secrétariat ou là maintenant des dépistages des personnels nous éloigne des besoins des élèves, alors même que le confinement, la crise sanitaire, la crise économique, la menace terroriste et l'attentat qui a frappé l'école augmentent les besoins de ces élèves. On nous laisse à moyen constant qui était préalable à cette crise et on nous demande d'intervenir dans d'autres domaines qui ne sont pas de nos compétences.
Un propos recueilli par Camille Schmitt.
L'épidémie maintenant, les chiffres.
Eh bien, l'amélioration est là, Guillaume, mais reste fragile. 16 000 nouvelles contaminations, plus de 400 décès hier, 4 100 patients en réanimation. Chez nos voisins, l'heure n'est pas à l'assouplissement. Bien au contraire, l'Allemagne donne un nouveau tour de vis et prolonge le confinement jusqu'à janvier. Et puis aux États-Unis, triste record en ce jour de Thanksgiving. 200 000 nouveaux cas, 2 400 victimes en 24 heures. C'est du jamais vu depuis 6 mois. Dans l'actualité également, la France qui rend hommage à un grand résistant aujourd'hui, hommage national à Daniel Cordier, cet après-midi aux Invalides. L'ancien secrétaire de Jean Moulin, avant dernier compagnon de la Libération, encore vivant, nous a quitté vendredi dernier, il avait 100 ans.
Une nuit blanche à Buenos Aires, des milliers de personnes toujours rassemblées dans la capitale argentine pour accueillir la dépouille de Diego Maradona.
Et vous entendez derrière moi, Guillaume, la clameur des drapeaux blancs et bleus, des chants, des larmes sur les visages. Immense émotion devant le palais présidentiel cette nuit. L'Argentine pleure son magicien du ballon rond et entame 3 jours de deuil national. Diego Armando Maradona, la légende s'est éteinte hier à l'âge de 60 ans. Derrière lui, un parcours incroyable, des quartiers pauvres de Buenos Aires au titre mondial en 86, en passant par les mythiques années sous les couleurs de Naples. Naples où il avait croisé en 87 la route de Jean-Philippe Durand, joueur du Toulouse Football Club qui avait réussi l'exploit d'éliminer les Italiens en Coupe de l'UEFA. Mais ce que retient l'ancien milieu de terrain français, c'est l'image d'un dieu du stade.
Tout le monde ne regardait que lui. Et même nous, lorsque avant le match, c'était hallucinant ce qui se passait autour de lui. Quoi. Il était sur une autre planète. Il marchait toujours le buste, là, très fier. Il était tout petit, mais très fier. Et on a l'impression que voilà, c'était Jésus qui marchait au milieu, qui marchait sur l'eau. Quoi. C'était un tout petit gabarit qui finalement avait une tête de poupon, une tête d'enfant au milieu d'adultes, mais capable de performances tellement exceptionnelles que forcément la perte d'un joueur comme ça est très très marquante.
Jésus qui marche sur l'eau, le témoignage de l'ancien joueur de Toulouse, Jean-Philippe Durand. C'est notre passé qui s'en va, réagit de son côté l'ancien numéro 10 des Bleus, Michel Platini. Enfin, réaction d'une autre légende pour terminer, Guillaume Pelé. J'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel, écrit le mythique attaquant brésilien.
Voilà, il est 8h. Et 7 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar, avec Monseigneur Rouget, avec le livre de Bruno Le Stamenrath, L'ami impossible, consacré à Xavier Dupont de Ligonnès, publié aux éditions Gallimard. Mais aujourd'hui, ce sont les 80 ans d'une des légendes, donc à la fois de la soul et du rock'n'roll, puisque finalement, elle a navigué entre ces deux genres. Il s'agit de Tina Turner, que vous connaissez, Marc.
Oui, un petit peu.
Carrière,
oui.
Comme choriste de son époux.
Exactement.
Qui lui aussi était un personnage curieux. Drogué, violent, etc. Elle a fini par le quitter. Garder ce nom qui était celui de Tina Turner, alors qu'elle ne s'appelait pas Tina Turner, évidemment, au départ. Et regarder le début, ou plutôt écouter le début de Let's Stay Together en 1984, qui lui a valu plusieurs Grammy Awards. La chanson est un peu banale, disons, mais la voix, quelle voix.
Let me say the same, babe, since we've been. Come running to. I'll never be
la chanson devient, j'allais presque dire, une chanson banale de rhythm and blues. Mais cette voix accompagnée par des roulements justement de la batterie et simplement des tomes est une voix magnifique. 81 ans donc pour Tina Turner, aujourd'hui, qui se produisait encore dans les stades, quand c'était possible de se produire dans les stades, il y a encore peu de temps. Il est 8h09, nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar qui va justement aborder la thématique qui nous permettra de converser avec Monseigneur Rouget, qui vient de publier aux éditions de l'Observatoire un sursaut d'espérance. Que va-t-il se passer dans le domaine des cultes concernant notamment les jauges qui vont être acceptées par l'État? Nous allons voir ça dans un instant, mais c'est bien au-delà de cette affaire que notre conversation.